MIPIM 2025 en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo.
Allez, on continue notre périple au salon MIPIM 2025. Cette fois, je suis en compagnie de Olivier Ouazana. Bonjour Olivier.
Bonjour Grégoire.
Alors, vous êtes président directeur général de ACT Commodities France. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots rapidement ?
Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, le groupe ACT Commodities, c'est une société mondiale aujourd'hui qui réalise un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a, j'allais dire, la lourde tâche d'accompagner les entreprises et les collectivités sur l'accélération de l'efficacité énergétique et de la décarbonation. Donc, c'est-à-dire qu'on intervient sur, on va dire, trois scopes. Le premier, c'est réellement la réalisation et le financement des travaux d'efficacité énergétique.
Ouais.
Pour toute typologie de contrepartie, ça peut être bien évidemment du tertiaire, des collectivités ou des industriels. Derrière, dans cette longue route qui mène à la décarbonation, il est parfois nécessaire de sourcer de l'énergie verte, donc d'aller chercher les garanties d'origine, éventuellement des corporate PPA, et parfois, de manière volontaire ou réglementaire, des crédits carbone pour atteindre la neutralité. Et le troisième point, qui est un des grands challenges que rencontrent toutes les entreprises aujourd'hui, c'est la décarbonation du scope 3. Et donc, c'est mettre à disposition une plateforme logicielle qui permet réellement de consolider toute la supply chain d'un industriel ou d'une grande entreprise en consolidant le scope carbone de leur donneur d'ordre afin d'essayer d'avoir, une vision consolidée et deux, offrir des solutions à cette supply chain pour réduire leur propre scope carbone et donc de facto réduire le scope 3 du donneur d'ordre.
Vous accompagnez combien d'entreprises à peu près sur la France ?
Sur la France, on en accompagne environ 800 et dans le monde, je pense plusieurs milliers, ouais. Puisqu'encore une fois, on est...
C'est une boîte hollandaise.
Absolument. Boîte hollandaise qui est présente aux États-Unis, en Amérique du Sud, Singapour, Tokyo, ouais. En Chine. Enfin, c'est vraiment l'objectif pour nous, c'est d'offrir des solutions à nos clients internationaux.
Oui, c'est ça. Ça permet d'avoir une vision globale parce que finalement, ces enjeux sont partagés par tout le monde. Il y a différentes manières en fonction des pays de les appliquer, mais les enjeux sont les mêmes pour tous.
Absolument. Et c'est cet accompagnement global aujourd'hui qui est vraiment différenciant pour nos clients avec ACT. Ouais.
Alors Olivier, moi j'aimerais bien qu'on fasse un focus aujourd'hui sur ce qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur ces C2E, l'actualité a été assez chargée sur la question. Comment est-ce qu'on peut expliquer de manière très simple déjà ce qu'est un C2E ?
Alors, vous faites bien Grégoire d'évoquer l'actualité chargée, à bien des égards, on y reviendra. Donc le certificat d'économie d'énergie, en fait, aujourd'hui, c'est le premier moteur du financement de l'efficacité énergétique en France. C'est un dispositif qui a été créé en 2006 et qui repose, en quelque sorte, sur le principe du pollueur-payeur. Donc, c'est-à-dire qu'il a été imposé aux vendeurs d'énergie, quels qu'ils soient, donc les grandes majors comme les vendeurs de taille intermédiaire, de financer des travaux d'efficacité énergétique, de financer un volume d'économie d'énergie qui se matérialise par un certificat d'économie d'énergie.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire qu'ils ont chacun des quotas à respecter. Ils doivent donc aller acheter ces certificats d'économie d'énergie. Pour ce faire, ils ont trois, je dirais, possibilités. C'est dans le cadre de leur activité, via leur filiale, de promouvoir des actions d'efficacité énergétique qui leur permettent de collecter ces certificats. Les acheter sur le marché, puisque ce certificat est un certificat cessible, donc c'est-à-dire qu'il peut être acheté et revendu sur le marché pour aller chercher cette obligation. Et la troisième, et c'est ce qui nous caractérise, c'est travailler avec des délégataires ou des mandataires, qui sont donc des sociétés spécialisées, qui vont accompagner des clients au financement d'un travaux de rénovation énergétique, collecter ces C2E, et derrière, les transmettre aux obligés.
Donc les clients, eux, vos clients, c'est par vous qui passe, mais concrètement, quelqu'un veut solliciter des C2E, il fait comment ? Il va contacter qui ? Et comment est-ce que ça se matérialise ? Est-ce que c'est lui-même qui reçoit les financements ? Est-ce que c'est quelqu'un qui reçoit les financements ? Voilà, comment on peut expliquer tout ça ?
Alors, le dispositif est très réglementé.
Ouais.
Et il est
c'est important de le dire, ça.
Absolument. Hein,
c'est pas du tout opaque, c'est vraiment très réglementé.
Très réglementé, très suivi, très contrôlé, et de plus en plus, par ailleurs. Et le gouvernement a vraiment la volonté de renforcer encore cette dimension-là. L'actualité aidant, il est clair aujourd'hui que c'est un outil incroyable mais pour lequel il y a eu des dérives, il faut mettre un terme à ces dérives.
Alors je reviendrai sur ma question après, mais effectivement, vous le dites, il y a eu des dérives. La ministre, elle a pointé du doigt quelques dérives. qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu des C2E qui ont été peut-être qui ont été perçus, mais des travaux ensuite qui ont été mal faits.
Alors, je dirais le panel, malheureusement, le panel de dérivés de fraude est relativement large, mais c'est globalement soit des travaux qui ont été déclarés mais non réalisés, soit des travaux qui ont été déclarés mais mal réalisés et sont non conformes. Donc, la première solution, c'est du contrôle, du contrôle. C'est vraiment ce vers quoi il faut aller, systématiser la vérification des chantiers qui sont réalisés pour s'assurer la pérennité du dispositif.
Parce qu'à la fin, qui perçoit l'aide ?
Donc l'aide, elle est perçue de deux façons. Prenons le cas d'ACT qui intervient en tant que délégataire. Nous avons par exemple un asset manager qui a la volonté d'investir dans la rénovation énergétique de son patrimoine. Donc il va nous soumettre un plan d'investissement. On va nous regarder dans le cadre de son plan d'investissement quels sont les travaux qui sont éligibles au C2E, puisqu'il y a en fait des centaines de fiches. Voilà. Ouais. Vous avez des fiches qui définissent très clairement les travaux qui sont éligibles et dans quel cadre et sur quel montant de C2E. Donc vous avez ce cadre-là qui est posé. Donc nous, on va challenger, on va regarder techniquement l'éligibilité et on va, selon deux canaux possibles, soit faire en sorte que ces travaux soient réalisés et payer les C2E au donneur d'ordre, soit travailler avec un installateur et en fait opérer à ce qu'on appelle une réduction sur devis, c'est-à-dire que je vais valoriser les C2E qui vont venir réduire le montant du devis et donc je paierai moi une part des travaux à l'installateur et l'installateur facturera le solde au donneur d'ordre.
Comment est-ce qu'on... Le C2E, il souffre peut-être de cette image dont on parlait un petit peu opaque et obscure. Comment est-ce qu'on peut faire pour rassurer les gens ?
Pour rassurer les gens, il faut... Alors déjà, j'aurais tendance à dire effectivement qu'il y a beaucoup de monde sur ce marché.
Ouais.
Donc travailler en premier lieu avec un acteur solide, puisque notre métier, c'est ni plus ni moins que de financer et de payer des travaux. Donc si jamais je n'ai pas les épaules pour... Il y a toujours un risque, malheureusement, que ce financement n'arrive pas. Et c'est là où aussi on peut avoir des dérives. Donc c'est s'assurer de la solvabilité du partenaire avec lequel on travaille. C'est un point important. Et le deuxième point, c'est dès lors que vous avancez sur des sujets d'efficacité énergétique, vous connaissez les gens, vous connaissez les process, vous connaissez les sites. Et je pense que c'est important de travailler avec des gens qui peuvent aller aussi au-delà de simplement le financement de cette transition énergétique, même si elle est clé.
Et c'est aussi rappeler que la transition énergétique, la rénovation énergétique, c'est peut-être le chantier du siècle. Elle s'inscrit aussi dans un cadre légal. On a des obligations, on a des objectifs et tout ça est bien encadré et bien accompagné.
Tout à fait. Alors on a un cadre hein, puisque donc, les objectifs dont je parlais, ces quotas sont définis par période. Des périodes de 3 ans, puis 4 ans et dorénavant 5 ans. Donc le gouvernement a précisé dans le cadre de son dernier PPE le montant des obligations pour la 6e période, qui est donc une période qui démarrera au 1er janvier 2026 et prendra fin en 2030. Donc on a une vraie visibilité, puisque ça aussi c'est important.
Ben oui.
C'est quand
on n'avance pas à vue comme ça, il y a vraiment des...
Et des travaux de rénovation énergétique, enclencher la décarbonation de son énergie, c'est des chantiers qui prennent du temps, tout particulièrement à l'échelle d'une collectivité ou d'un industriel. C'est des travaux qui peuvent prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. On travaille aujourd'hui parfois sur des projets avec des gros industriels à horizon 2030.
Oui.
Donc c'est absolument essentiel d'avoir cette visibilité et on est ravis que l'information soit tombée et qu'on y voit dorénavant déjà davantage clair.
Juste avant vous, je parlais avec la personne qui était là de valeurs vertes. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez vraiment encore plus ? Est-ce que vous sentez une prise de conscience de cette valeur verte dans la stratégie de l'entreprise, la valorisation des actifs ?
Oui, à bien des égards. Le premier, c'est que bon, déjà sur la partie immobilier, on sait qu'il y a des difficultés sur le neuf, donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience et la volonté d'optimiser son patrimoine. Et donc, ça passe par lui donner une valeur verte, puisque c'est une réelle valeur financière pour ce patrimoine. Il y a également, bien évidemment, les réglementations qui poussent à ce type de choses. Alors, peut-on parler d'une inflation réglementaire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un vrai driver aujourd'hui sur ce marché-là. Et ça fait avancer les choses dans la bonne direction. Encore une fois, un bâtiment qui est vert, qui est efficient, qui est neutre en carbone, c'est un bâtiment que l'on conservera et que l'on n'aura aucun problème à revendre ou à louer le cas échéant.
Tout à fait. C'est rassurant aussi dans sa stratégie d'avoir identifié ce levier. Olivier, on est au MIPIM. Votre impression, ce sera ma dernière question, sur ce MIPIM 2025, comment ça se passe jusque-là et qu'est-ce que vous ressentez un peu dans ces allées?
Alors, le premier mot qui me vient, c'est pluvieux.
Ouais. On n'a pas de chance cette année.
Non, cette année, effectivement, c'est pas le temps idéal. Néanmoins, ça nous oblige réellement à passer du temps à échanger avec les professionnels du secteur. On sent que là où l'année dernière, on sentait vraiment une crise très présente, ouais. Là, il commence à y avoir quelques indicateurs qui frétillent et qui laissent penser à un redécollage du marché. Donc il y a beaucoup d'acteurs ici, tous impliqués, et beaucoup de choses à faire, notamment sur les sujets du financement de la rénovation énergétique.
Bon, bah, c'était parfait. Merci beaucoup, Olivier Ouazana, d'avoir échangé avec nous sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président directeur général de ACT Commodities France. Très bon MIPIM.
Merci beaucoup, Grégoire. Très bon MIPIM.
MIPIM 2025 en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo.